Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre « Réaction après qu'un avion russe ait été abattu près de la frontière syrienne ». Réunion sur les combattants terroristes étrangers, nouveau problème humanitaire à la frontière entre la Grèce et les Balkans, l'UNESCO dénonce une série de meurtres dans les parcs nationaux de la RDC et l'UNICEF s'inquiète de l'impact des changements climatiques sur les enfants. Publication du rapport annuel d'ONU-SIDA et puis le PAM crée une application pour aider les enfants réfugiés syriens. La Turquie a abattu ce mardi un avion de combat russe près de la frontière avec la Syrie. Les informations dans la presse indiquent que selon Ankara, l'appareil russe aurait violé l'espace aérien de la Turquie. Une affirmation que dément Moscou. Alors que le Conseil de sécurité a tout juste adopté vendredi dernier une résolution autorisant les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les actes terroristes commis par le IIL, ce matin, lors du briefing de Genève, un journaliste s'est demandé si la multiplication du nombre d'acteurs sur le terrain ne risque pas d'embraser la situation dans la région. On écoute la réponse d'Ahmed Fawzi, directeur du service de l'information au Palais des Nations.
Oui, je suis au courant du fait que la Turquie a annoncé qu'elle avait abattu un avion russe. Et cela risque de compliquer les choses. Comme vous l'avez dit, le Conseil de sécurité a adopté des résolutions pour combattre le terrorisme. Je crois que nous tous voulons que la terreur cesse dans cette région et dans nos vies. Et les nations ont décidé qu'elles feraient usage de tous les moyens nécessaires à cette fin. Mais ce que le secrétaire général n'a cessé de souligner, c'est que ce faisant, nous devons respecter le droit international humanitaire et ne violer aucune norme des droits de l'homme. Et que nos actions doivent se fonder sur le respect de l'état de droit et la protection des droits de l'homme.
Le comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité se réunit ce mardi suite notamment aux attentats de Paris et de Beyrouth. La question du recrutement des combattants terroristes étrangers, un phénomène qui touche près de 100 pays, était une nouvelle fois au centre des discussions. Les experts du comité et les participants tentent de mieux comprendre les raisons qui ont poussé près de 30 000 combattants terroristes étrangers à tout quitter pour aller se battre notamment en Syrie et en Irak. Les précisions de Wei Shang-Chen, directeur exécutif adjoint de la direction exécutive du comité.
Il y a beaucoup de raisons, l'existence de griefs par exemple, la marginalisation, le chômage, et peut-être les questions de religion et d'immigration, et peut-être aussi des problèmes psychologiques. Mais il y a une chose certaine, c'est que ceux qui voyagent pour devenir des combattants étrangers sont radicalisés par les organisations terroristes et les terroristes. Ceci est quelque chose qui est vraiment inquiétant. C'est pourquoi l'extrémisme et la radicalisation sont les questions sur lesquelles nous devrions nous concentrer en ce moment, en plus d'autres facteurs qui contribuent au phénomène des combattants étrangers. Et ce qui est vraiment étonnant ces derniers temps, c'est que les combattants étrangers ne sont pas que des hommes, des adultes. Il y a aussi des enfants, des jeunes et des femmes.
Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés, un nouveau problème humanitaire est en train de se développer en Europe suite aux nouvelles restrictions imposées par plusieurs pays des Balkans aux réfugiés et migrants qui cherchent à transiter par leur territoire. Des mesures dénoncées par le HCR qui avertit que les conséquences négatives se font déjà sentir. Un millier de personnes seraient bloquées aux frontières et cette crise en devenir nécessite une action urgente. Les détails avec Adrian Edwards, porte-parole du HCR.
Les nouvelles restrictions impliquent que les personnes sont identifiées en fonction de leur nationalité aux frontières entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine et entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Serbie. Les Syriens, Afghans et Irakiens ont droit de passage, contrairement aux autres ressortissants qui sont bloqués. Environ 1000 personnes sont coincées au point d'entrée de l'ex-République yougoslave de Macédoine en provenance de Grèce. La frustration a conduit près de 200 personnes à manifester, surtout des Iraniens, des Bangladeshis et des Pakistanais. Quelques 60 personnes sont en grève de la faim, dont 11 qui se seraient cousu la bouche. Ces dernières 48 heures, environ 150 individus ont été assistés par le HCR pour rebrousser chemin volontairement vers Athènes, où on les aidera à faire une demande d'asile.
La directrice générale de l'UNESCO demande à l'État congolais d'arrêter de traduire en justice les auteurs de dizaines de meurtres qui ont eu lieu dans différents sites du patrimoine mondial de la RDC en 2015. Irina Bokova condamne la recrudescence de la violence de la part des miliciens, notamment dans les parcs nationaux de Garamba et des Virunga, ainsi que dans la RFO, la réserve à fauna Okapi en Ituri. Une correspondance de Radio Okapi.
La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, s'est dit inquiète face à la recrudescence recrudescence des violences dans les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en RDC. Elle a déclaré que pour l'année 2015, des dizaines de gardes et civils ont été tués dans les différents sites du patrimoine mondial en RDC, notamment au parc national de Garamba et de Virunga, ainsi qu'à la RFON Ituri. L'UNESCO condamne donc ces crimes et demande que les auteurs soient arrêtés et traduits en justice. Cette organisation des Nations Unies demande à l'État congolais de respecter son engagement de sécuriser les biens du patrimoine mondial conformément à la déclaration de Kinshasa signée le 14 janvier 2011. Par ailleurs, l'UNESCO demande à la MONUSCO et à la communauté internationale d'appuyer les équipes de la RFO et de renforcer les FARDC pour sécuriser les populations et les personnels de l'ICSN. Au-delà des efforts de sécurisation, l'UNESCO encourage les dialogues avec les communautés locales et les autorités étatiques pour identifier les moteurs du conflit, signalant qu'en 2012, une dizaine d'Okapi ont été tués par les hommes de Morgan Aepulu. Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Près de 700 millions d'enfants vivent dans des zones où la fréquence des inondations est très élevée ou dans des zones sujettes à des sécheresses graves ou extrêmement graves, ce qui les rend très vulnérables aux effets du changement climatique. C'est ce qu'affirme l'UNICEF dans un rapport publié mardi à l'approche de la conférence de Paris sur le climat. Pour l'UNICEF, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est considérablement réduire le nombre d'enfants menacés par l'impact du changement climatique au cours des prochaines décennies. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
Ce rapport met en évidence le lien entre le niveau de vulnérabilité aux effets du changement climatique et à la pauvreté. Alors, pourquoi et comment ces enfants sont si vulnérables ? Il y a le nombre accru de sécheresses, d'inondations, de vagues de chaleur et d'autres phénomènes météorologiques qui peut contribuer à la propagation croissante des principales causes des décès d'enfants, comme la malnutrition, le paludisme, les maladies diarrhéiques. Je vous donne l'exemple des inondations. Une inondation compromet souvent l'approvisionnement en eau propre. Elle accroît le risque d'épidémie de diarrhée. Parallèlement, elle occasionne des dégâts, la nourriture vient à manquer et tout cela augmente le risque de malnutrition, notamment chez les jeunes enfants.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Des progrès extraordinaires ont été réalisés ces 15 dernières années pour enrayer la propagation du VIH-Sida dans le monde. Mais les 5 prochaines années seront cruciales pour briser la trajectoire de l'épidémie. C'est ce qu'indique le dernier rapport annuel de l'ONU-Sida publié ce mardi à Genève. Selon ce document, le nombre de personnes ayant accès à des traitements double tous les 5 ans. En 2014, le VIH a fait 100 000 victimes de moins qu'en 2013 et les nouvelles infections sont aussi en diminution. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, souligne toutefois que pour éliminer l'épidémie d'ici à 2030, il faut avant tout s'attaquer aux tabous qui entourent la maladie. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Nous avons encore 21 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. 19 millions de femmes qui sont infectées par le VIH. Donc, il est important pour nous de continuer à redoubler nos efforts. Et c'est pour cette raison que je crois que nous avons une fenêtre d'opportunité sur les 5 prochaines années. Comme le rapport le montre, tous les 5 ans, nous avons pu doubler le nombre de personnes sous traitement. Si on arrive à doubler le nombre de personnes sous traitement les 5 prochaines années, nous allons briser complètement la trajectoire de cette épidémie et on pourra dire au monde que nous avons mis fin à cette épidémie comme un problème de santé publique. Parce qu'on aura moins de 22 millions de décès et on aura évité au moins 28 millions de nouvelles infections et ce qui nous permettra de contrôler l'épidémie.
Et 15 millions ont accès à la thérapie contre 7 millions il y a quelques années. Qu'est-ce qui a fait la différence sur le terrain ?
Vous savez, la différence, c'est d'abord que les pays se sont pris en charge. Et ça, c'est extraordinaire. La lutte contre le sida a montré que vraiment, on est parti d'une période où il n'y avait pas d'espoir et la magnitude de l'épidémie leur faisait peur. Aujourd'hui, sur les 22 milliards de dollars qui ont été mobilisés, plus de 53% de ces 22 milliards proviennent des ressources domestiques. Ce qui est extraordinaire, les pays se sont pris en charge. Mais aussi, nous avons fait comprendre aux populations que ce n'était plus une sentence de mort et que lorsque vous connaissez votre statut sérologique, vous pouvez avoir accès au traitement.
Est-ce que cette seule thérapie explique la chute de 35% de nouvelles infections ?
Moi, je pense que c'est une combinaison de facteurs. D'abord, comme je le disais, les jeunes se sont pris en charge. Il y a eu une transformation complètement au sein des mentalités. On voit un peu partout que les gens se protègent plus et que les gens ont réduit les relations à risque. Et ça, c'est très important. Et deuxièmement, je pense que le traitement, on le sait, lorsque vous mettez quelqu'un sous traitement très tôt, vous pouvez réduire pratiquement de 96% les nouvelles infections. Et on sait aussi que lorsque quelqu'un a 20 ans et qui n'a pas la chance d'avoir accès au traitement et qu'il est positif, eh bien, son espérance de vie est de 28 ans. Mais lorsqu'on a la chance de le mettre sous traitement tout de suite, la même personne aura une espérance de vie de 70 ans ou plus. Voilà où vraiment le traitement nous mène aujourd'hui, c'est qu'on peut prolonger la vie des gens, on peut faire vivre les gens plus longtemps et puis on peut arrêter la transmission de la mère à l'enfant. Et quand j'annonçais à l'époque qu'il fallait aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, les gens pensaient qu'on était des fous. Et aujourd'hui, on a plus de 85 pays qui ont moins de 50 enfants qui naissent avec le sida chaque année.
Mais pourquoi les sources de préoccupation aujourd'hui pour l'ONU-SIDA, c'est le Moyen-Orient et les pays de l'Europe de l'Est?
Vous savez, le Moyen-Orient, c'est très simple. Encore, il y a des tabous, il y a énormément de tabous autour de la sexualité. Et donc, quand il y a les tabous, vous savez, cette maladie, quand même, qu'on le veuille ou non, elle se cache, elle se transmet. Et donc, tant qu'on ne va pas briser ces tabous-là et qu'on ne va pas donner l'information et qu'on ne va pas équiper les jeunes, on aura des problèmes.
Voix de femme. Comment aider les enfants syriens réfugiés? Cette semaine, dans Voix de femme, Marina Katena revient sur un nouveau logiciel récemment lancé par le Programme alimentaire mondial. Au micro de Christina Silvero, la directrice du PAM pour la France et Monaco, explique comment Share the Meal, partager le repas, permet aux utilisateurs de smartphones de partager leur repas et d'aider à nourrir les enfants syriens réfugiés en Jordanie avec un simple toucher du doigt.
C'est une application qui s'appelle Share the Meal, partage ton repas, que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a conçu et qui lance donc aujourd'hui 12 novembre dans plusieurs pays du monde. Ça sera une façon virtuelle d'un côté de pouvoir faire un don grâce à cette application qui se télécharge en quelques secondes sur notre iPhone, sur notre iPad. Et imaginez, grâce à un petit don de par exemple 40 centimes d'euros ou de donc 50 centimes à peu près de dollars, nous pourrons nourrir un enfant pendant une journée dans le camp de Za'atari, dans lequel vraiment l'aide alimentaire est vitale.
Comment est-ce qu'on arrive justement à donner la donation?
L'usager peut simplement télécharger l'application sur son propre téléphone. Il faut juste faire un clic sur le montant choisi pour un jour, ou bien on peut faire un mois, on peut faire une semaine, on peut faire un an. Et donc à partir de ça, immédiatement, le don va directement donc à cette action humanitaire du PAM pour les enfants dans le camp de Za'atari. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les usagers pourront voir le curseur qui monte pour atteindre vraiment notre objectif, qui est celui de nourrir 20 000 enfants dans le camp de Za'atari. Et vous savez, dans des situations comme ça, l'aide alimentaire dans les écoles qui permettent une sensation de normalité dans la vie de tous les jours de ces enfants est fondamentale. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de distribuer des barres nutritives qui vont permettre aux enfants de se concentrer à l'école et qui vont encourager leurs familles, bien évidemment, à s'occuper de la scolarisation de l'enfant. L'école reste un des seuls moments de paix, de tranquillité dans la vie de ces enfants. Et c'est pour ça que nous croyons vraiment que cette technologie simple appliquée à la lutte contre la faim peut nous aider tous à atteindre donc l'objectif Zero Hunger, donc un mot sans la faim. Donc nous espérons vraiment que cette application chez A2000 puisse nous permettre d'y arriver plus vite.
Les donations vont aller envers des barres nutritives qui seront fournies à travers les écoles.
Les donations vont aller au PAM. Tout est très sécurisé. Bien évidemment, dès qu'il y a une donation, il faut rentrer sa carte. Mais tout est contrôlé. Donc si quelqu'un, des fois, on peut se tromper. Vous savez, par exemple, dans faire une donation, on peut tout à fait corriger son erreur. Donc il ne faut pas se précipiter. Et donc le PAM, avec l'argent qui est collecté, va après acheter les aliments qui sont justement après distribués pour les enfants qui se trouvent dans le camp de Za'atari.
Dans quel pays est-ce que cette application est lancée?
Tout le monde peut la télécharger et tout le monde peut faire des dons. Nous avons déjà lancé le projet pilote de cette application en Allemagne, en Autriche, en Suisse et nous l'avons lancé en juillet 2015. Et en fait, grâce à cette application, nous avons eu plus de 120 000 utilisateurs et nous avons pu donner 1,7 million de repas aux enfants ou les autos. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment, on veut être en contact avec les usagers, on veut leur montrer que leur don a une efficacité immédiate. Les autos, c'est fait. Là, c'est les enfants de la Syrie. Et donc, on veut que ça soit vraiment quelque chose qui nous permette de suivre cela de près. Voilà, que ça soit proche des jeunes aussi et que ça nous permette d'arriver à cet objectif d'un monde à zéro hunger.
Et c'est avec Marina Catena que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Un journal à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.